cépage, c'est une variété de vigne utilisée pour faire le vin. Mmh. Ce n'est pas de la vigne pour manger, c'est voilà, uniquement pour faire le vin. Mmh. La science qui permet de déterminer quel est le cépage que nous allons boire ou que nous buvons, ça s'appelle l'ampélographie.
Voilà.
A-M-P-E-L-O-G-R-A-P-H-I. Voilà. Donc,
la Syrah. Ah, t'as une question, tiens, t'as une
si
question.
Si t'étais arrivé à l'heure, tu le saurais.
Oui, mais.
Alors, photo, s'il vous plaît. Ouais. La Syrah ou Sérine, S-E-R-I-N-E, nom qu'elle porte à Ampuy, le Rhône.
Ah,
A-M-P-U-I-S.
D'accord. Et ça veut dire, attends, mais quand...
Ampélographie, ouais. La Syrah, nom qu'elle porte à Ampuy, c'est le Rhône. Donc le couloir...
Je comprends pas trop.
Oui, moi non plus, pour l'instant, mais...
Ampuy, c'est le Rhône.
Ampuy, c'est le nom grec de la région du Rhône.
Ah, d'accord. De la vallée du Rhône.
La vallée du Rhône.
Ah bon, donc c'est Ampuy.
C'est la raison pour laquelle le Syrah, forcément, était dans ce couloir.
Non, ce qui est surprenant, c'est par rapport à l'étymologie d'ampélographie. Oui. Savoir ce que, dans le sens qu'il a. C'est, j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi on en est venu à Rhône, important d'Ampuy.
Oui.
Ça n'a rien à voir.
Oui.
On parle d'ampélographie.
Voilà, donne l'étymologie. Donc, la science. Donne quand même l'étymologie d'ampélographie qu'on t'a donnée tout à l'heure.
Voilà.
Non, mais voilà, donne-le, parce que c'est la question de Anne.
Oui, pourquoi ampélographie?
Et c'est toi qui fais la présentation.
Ah non, alors vas-y, dis-le, parce que moi j'ai tout oublié là. Mais je suis entre...
On a cherché, alors, juste en petit outil, si ça vous intéresse, quand vous cherchez parce une définition ou une étymologie, je vous conseille d'aller sur le site internet du CNRTL, Centre National de Recherche Textuelle et Lexicale, donc cnrtl.fr. Il y a les antonymes, sinon il y a plein de choses. Et donc, on a regardé ampélographie, et ampélos, ça veut dire vigne en grec.
Voilà, ça, je me souviens.
Et donc, graphein, l'écrit, donc effectivement, écrire sur la vigne.
D'accord.
Donc là, c'est très intéressant, parce que le mot vigne, en fait, nous vient, lui, des latins.
Oui.
Et donc, c'est
oui,
vrai que quand Véronique vous a dit ampélographie, je dis, mais voilà le rapport avec la vigne. Parce que c'est chez les Grecs.
Tout à l'heure, tu as dit la Syrah, parce que c'est mais autre chose que le Syrah, mais c'est pas...
Donc c'est un nom grec, en fait.
On ne dit pas le Syrah,
parce que
Massilia,
les Grecs, ce sont un...
D'accord.
Alors si. Bon,
après, c'est ce que j'ai vu aussi.
Tiens,
d'accord. C'est pas le Syrah, c'est la Syrah.
Ah, d'accord.
Le cépage,
la Syrah.
Il y a une raison aussi sur l'étymologie, mais une chose intéressante, Véronique, par rapport à ce que tu nous dis concernant Ampuy.
J'ai recopié, parce que je n'ai pas cette science.
C'est que si Ampuy, également, donc on tombe dans l'étymologie grecque, étant donné que les Grecs sont les premiers à avoir installé un comptoir dont on a des noms, Marseille, c'est un comptoir grec à l'origine, c'est une ville grecque. Et on ne connaît pas, alors évidemment avant d'être une ville grecque, c'était déjà une ville celte, mais l'histoire c'est qu'on ne connaît pas, ils n'ont pas laissé les noms souvent les celtes. Et les Grecs et les Romains les ont remplacés assez rapidement, et eux comme ils avaient des textes, on a les noms. Donc là notamment, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que non seulement on a Marseille, mais on a vraiment des noms grecs qui sont restés un certain temps, parce qu'en Puy, en Pélos, c'est du grec également.
Voilà.
Donc apparemment, on doit avoir un beau mappage des villes autour, issues de l'occupation grecque.
Oui, c'est possible, parce que, écoute, ça va tout à fait dans ce que tu dis, peut-être. La Syrah ou Sérine, S-E-R-I-N-E, nom qu'elle porte à Ampuy, c'est-à-dire le Rhône, a comme radical Ser, S-E-R. C'est un nom celto-ligure.
Ah d'accord. Alors là, on va entre les Italiens et les Celtes. D'accord.
Qui désigne... Alors, qui désigne, et c'est là où c'est intéressant, une montagne allongée ou arrondie dans le midi de la France et qui a donné Serra en portugais ou Sierra en espagnol.
Ouais.
D'accord. Qu'on retrouve maintenant chez les Américains.
Intéressant.
Que les colons ont exporté.
Exporté, oui.
Ces monts en forme de serre.
Absolument.
On servit à dénommer le long du Rhône les villages de Serrières, la vallée de la Séran, où coule un de ses affluents.
Et là, pourtant, Séran, c'est S-E-R-A-N-T, non ? S-E-R,
toujours, S-E-R, la Séran.
Ça, vous le retrouvez, par rapport à la question d'Annie. Non, mais c'est pas uniquement l'envoyer, c'est que moi, ça, je vais le mettre sur le site privé, pour que ceux qui n'ont pas pu être là aussi puissent bénéficier de tes lumières à ce niveau-là.
Pour ceux qui ont des trous de mémoire aussi.
envoyé, c'était en fait le brouillon de ce que j'allais chercher. Mm-hmm. D'accord.
D'accord.
Donc après, j'ai travaillé un petit peu dessus. Mm-hmm. Donc ça, tu ne l'as pas.
Mm-hmm. Ouais, bah, tu me l'enverras. C'est simplement
hein
que
je vais te l'envoyer. Hein, d'accord. Mais alors, les mots allongés, là, attends, pour revenir aux histoires de mots allongés.
Des serres.
Oui, avec cette forme de serres, parce que ce sont
ça serait lesquels? Parce que est-ce que la montagne. Est-ce la montagne 5 victoires, ça pourrait être considéré comme ça?
Aussi, parce que la Syrah. D'abord, la Syrah, ce cépage,
oui,
hein, oui. Se trouvait d'abord dans, dans les côtes du Rhône, oui, septentrionale.
Oui,
d'accord.
Oui. T'as pas une carte, par hasard?
Sur le
bah voilà, tant qu'à faire. Oui, hein, oui, oui, oui.
Voilà. Et
de toute façon,
les deux
côtes. La
Bourgogne. Je vais te faire le porte, si tu veux. Ouais.
Alors, la Bourgogne se trouve ici, composée de 4 départements.
Bourguignonne,
c'est
quoi?
T'es bourguignonne? Pas du tout.
Ah bon?
D'accord.
Ah oui, j'ai cru que
non, mais c'est parce qu'elle est tout fière
de
pouvoir faire
ça. Elle est surtout une très bonne cuisinière. Elle est, voilà, c'est pour ça que c'est parti comme ça.
Et que la Bourgogne est le berceau.
Donc j'ai piqué ça à mon bureau parce que j'avais un collègue qui adorait la France. Donc il vient de cette carte. Elle est très très vieille, cette carte.
Très très vieille, 2005.
Attends, 7 ans.
Alors, donc. La Bourgogne, c'est la Côte d'Or, c'est Lyon, c'est la Nièvre et c'est la Saône-et-Loire. D'accord ?
D'accord. D'accord, je vais t'attenir.
Oui, oui, voilà. Je vais t'attenir.
Alors, très bien. Donc, la Syrah, pour revenir à la Syrah, la question que tu posais, on va parler du Rhône. D'accord ? Donc, toute cette partie septentrionale se trouvait le Syrah, là où on trouve des monts.
La Syrah. La Syrah.
La Syrah.
Que t'écris comment? S-I-2-R-A.
Toujours S-Y-R-A.
Comme le vin. D'accord. Voilà. Cépage, d'accord.
Voilà. Donc, et ensuite, au fur et à mesure des années.
Parce que c'est le cépage dont elle parle.
Oui, elle parle du cépage.
Ah,
cépage
hein.
Je parle toujours que de ça.
Ah, non, et la Syrah, ça, c'est une évolution linguistique.
Oui.
Partie en espagnol par rapport au cerf.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai dû rater
la non, c'est hyper compliqué. Non, mais ça fait une semaine que je travaille.
Ah, voilà.
Et si on te réinterviewe la semaine prochaine, tu t'en souviendras encore.
Il faut réviser, tu sais, il faut réviser. Et maintenant, on trouve du cépage Syrah dans les côtes du Rhône, voilà. Méridionales.
Ce
que vous buvez,
c'est Aix-en-Provence, la Saint-Victoire.
C'est là,
donc, c'est à côté de Marseille.
Voilà, tu dois la prendre là.
C'est entre, voilà, c'est là, Aix-en-Provence, voilà, c'est au nord.
Et le Mont Ventoux, ça serait aussi une montagne.
Ah non, le Mont Ventoux, c'est un petit peu plus. Le Mont Ventoux, c'est en allant vers
le Mont Ventoux.
Le Mont Ventoux, c'est le sud, c'est le sud de l'Auvergne.
Non, mais parce que je pense toujours
que c'est une montagne allongée.
C'est très bien,
c'est très
bien. C'est le dernier
lieu.
C'est le dernier lieu.
C'est à la hauteur d'Avignon.
Les montagnes allongées, il faut pas oublier quand même que le Rhône, c'est dans un couloir. Donc en termes de montagnes allongées, tu en as de deux côtés, je suppose.
Oui, oui, d'accord. Ça fait des monts, quoi. Enfin, des grosses collines.
Ah oui, c'est vu que tu as les Alpes d'un côté.
Là, il y a des sommets, c'est pas des montagnes allongées.
Non, non, mais là, tu es sur les contreforts.
Oui, c'est
là, tu es sur les contreforts.
C'est pour ça que je me demandais si le Mont Ventoux.
Donc, tu as un contrefort qui est justement vraiment allongé puisque ça fait un peu
d'accord, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'excellents
oui aussi
quand on va à Lyon par l'autoroute avant d'arriver juste dans les couloirs rhodaniens justement on descend complètement les collines et on voit toutes les collines de vignes à droite et à gauche, c'est magnifique.
Alors ce que vous buvez, que l'on boit,
chers amis,
ah oui,
qu'on a déjà descendu apparemment,
c'est les côtes du Rhône méridionales
de Paris,
parce que ça vient du 84 120 Pertuis.
C'est la vallée de la Durance.
Avignon,
tu vas complètement vers l'est et c'est la vallée de la Durance.
Il y a deux Pertuis, parce que moi je connais un Pertuis qui est dans le Roussillon.
Il
y
en a plein.
Ah oui, des Pertuis,
on a plein. Ah non, mais quand je parle du Roussillon, attends, je parle des côtes du Roussillon de Provence, pas le Languedoc-Roussillon.
Voilà, c'est presque de la côte de Provence.
Oui,
d'accord. Voilà, et c'est ça que vous buvez aujourd'hui.
D'accord.
Alors, vous ne buvez pas de Bourgogne parce que j'ai eu. Non, mais j'ai acheté 5 bouteilles.
Tiens, la bouteille que
j'ai acheté 5 bouteilles. J'en ai eu pour 42,75 €, d'accord ?
Ouais.
Bon. Quand je suis allée sur Internet pour essayer de choisir le vin qui irait bien avec le magnifique c'est... bourguignon que j'ai, j'ai préparé,
pas tout à fait le même prix, oui.
Eh bien, la bouteille de Bourgogne est à 42 €. La bouteille.
Waouh.
La bouteille.
42 € la bouteille.
Vas-y, montre la bouteille.
La démence, là.
Waouh.
Bah tiens, voilà.
Ah mais dis donc, c'est impressionnant.
Impressionnant.
Les Bourgognes, c'est inabordable.
C'est inabordable.
Attends,
inabordable.
une seconde.
Ah, ils ont pris un sacré prix, c'est depuis une dizaine d'années.
Non mais c'est le prix en francs.
Attends,
est devenu le prix en
francs. Ah non, mais attends, tu as besoin d'avoir des explications. La qualité du vin que tu as là, si tu le voulais en Bourgogne, te coûterait 42 €.
Oui. Ah d'accord. Ça,
oui, parce qu'il existe. Oui, bah, c'est une bouteille de Bourgogne à 12 ou 15 € quand même.
Exactement.
Ah,
oui, mais qu'est-ce que c'est
pas de gamme. Voilà, c'est pas de gamme. C'est pour ça que je te le dis. Parce qu'évidemment, tu peux avoir du Bourgogne
c'est
moins cher.
C'est pas unique, là, c'est un cépage unique, Syrah. C'est que de la Syrah.
C'est que de la Syrah.
D'accord. C'est assez rare parce qu'en France, il y a beaucoup de. On fait beaucoup de
mélanges.
Oui,
d'assemblage de cépages.
Il a son cépage.
Ah, mais même les propriétaires récoltants souvent font
des assemblages. Oui, parce qu'il faut qu'ils puissent réutiliser les vins qu'ils n'ont pas utilisés des années précédentes, par exemple.
C'est comme ça part automatiquement dans les coopératives. Il faut
faire
assemblages
aussi. C'est pas une coopérative, c'est un propriétaire récoltant.
Moi, je connais propriétaire qui a dans le Saint-Émilionnais, il fait aussi des assemblages.
Oui, il y a des propriétaires qui font parfois des
parce que c'est aussi parfois des questions de goût.
Oui,
c'est
vrai,
qu'ils étudient en fait les pour trouver de nouveaux goûts, de nouveaux parfums.
Les œnologues font des assemblages.
Tout à fait, ouais.
Quand je suis allée voir la caviste, je lui ai dit je veux du Syrah parce que c'est du Syrah que l'on boit avec un bourguignon.
Mm-hmm.
Alors ça, je l'ai appris en lisant.
Alors pourquoi est-ce que c'est du Syrah qu'on boit avec du bourguignon, effectivement?
Parce que c'est un vin qui ne va pas remplacer le goût de du plat que tu vas manger.
D'accord.
Bien que très, très costaud quand même.
Il ne va
pas écraser ton plat.
Voilà. Et tu l'as cuisiné avec quoi?
Avec ça.
Avec le Syrah.
Ça, justement, ce que tu viens de dire concernant la question du remplacement du vin par la viande, est-ce que c'est quelque chose que tu vas retrouver dans tes recherches par hasard sur les habitudes culinaires qu'on a eues à travers le temps?
Non, parce que en fait, c'est la discussion que j'ai eue avec l'éleveur et cuisinier du salon de l'agriculture que j'ai rencontré avec Patrick. On est tombé sur un éleveur très, très, très sympathique, très agréable, qui nous a donné beaucoup de conseils, qui nous a expliqué effectivement ce dont on va parler, hein, la création des races de viande, enfin oui, de bœuf, la sélection des vaches, des bœufs, on va parler de tout ça. Mais en plus, lui, non seulement il est éleveur, en plus il a passé des diplômes, qui fait qu'il a... Effectivement, l'historique hein, de tout ça.
Il a passé des diplômes de quoi?
Il doit avoir au minimum un BTS concernant l'élevage,
l'agriculture.
L'élevage, maintenant, sont des...
Tu peux pas te mettre éleveur si tu as envie de...
diplômés maintenant. Il y a pas de...
J'ai un neveu qui...
Ah non, on est vraiment dans un pays...
C'est une obligation.
Pour avoir une exploitation agricole, il faut être diplômé.
Il faut être diplômé, oui.
Tu peux pas avoir...
C'est de la chimie.
Tu peux être très bon...
Ah ouais, c'est de la chimie.
De la chimie. Ta matière principale dans tes études quand tu veux être agriculteur, c'est la chimie.
D'accord.
T'es pour, hein?
Okay.
Ça montre bien
ce qu'on mange.
Oui.
C'est
lui qui
m'a raconté
tout ça, parce que non seulement il est éleveur, mais en plus il est cuisinier. Parce que son grand-père était cuisinier, etc. Donc il a aimé ça. Et donc voilà. Donc c'est lui qui m'a donné un petit peu toutes ces petites. Bien qu'il se soit trompé.
Ah!
Pour une chose.
Ouais.
Parce que j'ai. Essayer de confondre ce qu'il m'a dit avec les propos que j'ai eus avec le boucher chez qui je suis allée acheter la viande parce que du coup je l'ai
la boucher
voilà, je l'ai interrogé Parce que je sentais rien du tout. D'abord, non. Moi, je transcrivais, c'est tout. Je ne faisais rien du tout. Quand je suis allée commander la viande, je savais qu'il me fallait du paleron, parce que c'était le plus moelleux. Je lui ai parlé de la macreuse et du gîte. Il m'a dit oui, du gîte, oui. Il me dit non, ne prenez pas de la macreuse, c'est trop sec, il ne faut pas faire ça. Bon. Et je lui dis, mais est-ce que vous avez de la surprise? Et alors là, il s'est reculé le marché.
Il me dit, là, c'était quoi la surprise, là.
Ils ont mis même de la surprise dans un bourguignon, mais ça va être hyper dur. Et puis, je vais vous la faire payer très cher, la surprise. Il me dit, vous savez ce que c'est que la surprise? Alors, évidemment, fort de la science. J'avais, de par l'éleveur cuisinier que j'avais écouté au salon d'agriculture, j'ai dit, oui, c'est le morceau de viande qui se trouve sous l'omoplate.
Donc là, normalement, on devrait avoir de la surprise sur le
dessin. Sur le c'est dessin, aussi bon que du rhum steak. Ah,
ouais. C'est la première fois que j'entends ce mot-là.
C'est pour ça que là, je vous envoie la science.
Ça fait, je frime.
Je frime. Donc voilà. Et il me dit, mais non. Alors, ça peut être de la galinette, mais certainement pas de la surprise. Et comme une idiote, je ne vais pas demander ce que c'était que la galinette, parce qu'on est passé complètement à autre chose, donc je ne saurais jamais.
Tu l'as pas là-dessus?
Internet, galinette. Alors, le paleron que nous allons manger, c'est là.
La macreuse,
la macreuse, je ne l'ai même pas cherchée pour vous. Parce que ça, on l'a pris au salon d'agriculture.
Ah oui, paleron, il y a deux L, paleron.
Non, P-A-L-E-R-O-N. Paleron et le gîte. Évidemment, du gîte.
Ah, et la surprise, il le situait où alors?
Derrière l'omoplate, mais c'est pas indiqué.
Ah d'accord.
Oui. Mais tu sais, c'est tout petit.
C'est le morceau de boucher très.
D'accord.
C'est le morceau de boucher qui est très. Oui, il y a que les.
Tu gîtes, tu en as là.
Comme, il y a que les connaisseurs qui.
Comme le solinès, tu vois.
Ah oui, d'accord. C'est vachement bon.
Je sais pas.
Je pense que c'est
des. Effectivement, tu as des soucis de connexion, apparemment.
Non, voilà, ça y est, surprise.
Attends, je peux peut-être te la trouver,
Anastasie. Non, c'est parce que j'avais pas.
C'est là la balette. J'ai mis
internet. Tu vas avoir beaucoup de choses, mais oui, il parle de
la balette.
J'ai mis la balette.
La balette aussi.
Alors, homonymie.
Vas-y, en homonymie, parce que tu auras d'autres. Il va te le dire.
La balette, c'est ça. Oui, encore, il y en a un autre troisième, comme ça, qui a beaucoup de goût.
Il arrive, il travaille.
La balette, voilà.
Là-dessus.
L'araignée, c'est encore plus tendre que la balette.
Oui, c'est plus.
Mais l'araignée, en première langue.
Oui, c'est l'araignée. Mais tu n'en trouves pas forcément.
J'ai une viande de bœuf.
Oui, dans le truc, mais apparemment.
Est-ce que ce serait Agile Mathieu?
Cette page d'homonymie.
Le grand classique.
Évidemment.
Ma maman m'en a offert un quand j'étais petite. Moi, j'en ai offert un à ma fille qui l'a offert à sa cousine en Angleterre.
Ce film marche sur le mot plate.
Et il paraît que c'est un des livres qui a plus édité la matreuse.
Ah oui,
qu'il a encore été réédité il n'y a pas longtemps.
La palette, elle se trouve où, la palette?
Moi, j'en ai plein. Pourtant, la cuisine,
la palette, ça manque à
toi. Et c'était la galinette que t'as pas demandé.
Mais j'ai pas. Ah d'accord, ok. Ouais, ça serait. Moi, de temps en temps, je fais des corrections avec via Archéotopia sur Wikipédia. De temps en temps, je corrige en faisant des recherches, mais tant qu'à faire, ça permet de.
Galinette du bœuf.
Wikipédia, j'utilise mon œil, mais pas tout.
Ah, mais c'est la plus grande encyclopédie qu'on puisse faire, donc effectivement, c'est vrai. Que, malgré ce qu'il y a des erreurs, hein, c'est clair.
Mais c'est souvent corrigé quand les gens
alors,
le
voient. Ah, ah, tu ouvres les encyclopédies papier, tu as aussi des erreurs régulièrement.
La galinette, ça fait un peu penser au poulet.
Oui, la galinette. Alors voilà. Mais en plus, ce mot me disait quelque chose, mais bon.
La basse-côte, la galinette.
Et on a changé de conversation, je ne vais pas demander.
Et meilleure recette.
Mais ça l'a aussi.
À la hampe aussi.
Apparemment,
à la anglais, hampe. Oui, ça
se fait. Elle t'a dit qu'elle est, elle pense arriver quand quand même, résultat Chantal. Non mais sérieusement, on sait qu'elle.
Je sais pas où elle est, enfin je comprends pas.
Bon ok bon.
Elle doit être déprimée la pauvre.
Si je dis ça, c'est parce que je comptais attendre un peu pour rappeler le contexte parce qu'on l'a pas fait quand même jusqu'à présent.
Bah oui.
Si ce n'est que là, si on sait pas où elle est, elle l'écoutera dans l'audio.
Donc
pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait l'archéologie du bœuf bourguignon quand même, hein?
On va quand même rappeler ça quand même. L'archéologie du bœuf, c'est bizarre.
N'est-ce pas? Donc c'est venu. C'est venu d'une chose.
Qui a eu l'idée Pourquoi on fait l'archéologie du bœuf bourguignon?
Alors, l'idée, évidemment, comme ça, en revanche, elle est venue de moi, mais elle est venue de moi parce que Véronique m'a dit, je ne sais plus à quelle occasion, en fait, on parlait du bœuf bourguignon.
Vous étiez venu manger à la maison au mois d'août.
C'est voilà. Ça, mais je ne sais plus pourquoi on parlait du bœuf bourguignon, en fait. Je crois qu'il y avait une chose que je ne connaissais pas dans la recette, et elle m'a dit, non, mais comment ça, tu ne connais pas la recette du bœuf bourguignon?
Il imite bien, hein.
Et donc, je dis, on a commencé à en discuter un peu. Et je peux vous faire un bœuf bourguignon. Je dis, écoute, c'est très bien, on va pouvoir faire l'archéologie du bœuf bourguignon. Alors, évidemment, Véronique, comme vous, je pense. Tu me dis, comment ça, l'archéologie du bœuf bourguignon? Qu'est-ce que tu veux faire, l'archéologie
du bœuf bourguignon? Pas bien dire sur les campagnes.
Tout est transformé en archéologie.
Mais justement, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est-à-dire
que... Mais je vous assure que. Il est tenace, hein. Parce qu'il y a encore 15 jours, je lui disais non. Je ne fais pas.
Parce qu'elle a perdu, elle a perdu son boucher préféré. Alors c'est oui, pour ça qu'elle m'a appelé en désespéré.
Ah oui, ça m'a foutu un coup.
Désespéré en me disant mais non, je ne vais pas le faire parce que. Donc c'était quand même il y a un mois de ça plus que deux semaines.
Parce que sinon. J'allais en randonnée.
Comment ça, tu l'as perdu? Il est mort?
Non, il a.
Il est en retraite.
Oh, c'est une petite mort, mais bon.
C'est presque pareil. Oui.
Et donc, quand même, j'ai redynamisé Véronique par rapport à ça, parce que notamment, elle m'a dit qu'il y avait le salon de l'agriculture qui venait.
Heureusement.
Et voilà, ça l'a remotivé.
Oui, voilà.
Ça l'a remotivé. Ce qui tombait bien, parce que ça aurait été quand même fort dommage que tu ne le fasses pas. Là, tu t'en rends compte quand même, ne serait-ce que par rapport à la partie linguistique qui n'est pas archéologique, mais qui a son importance.
Oui, c'est ta faute.
La raison pour laquelle j'ai lancé Véronique là-dessus, c'est d'une part, ça permettait de faire une archéologie qui change un peu du visionnage d'un documentaire, puisqu'il y avait quelqu'un qui allait pouvoir faire un travail de recherche dessus. Mais en même temps, ça vous permettait aussi, comme vous avez encore un peu de mal, vous avez beau faire partie d'Archéotopia, où on vous en parle souvent quand même des fondements de l'archéologie, vous avez un peu de mal à faire le lien entre l'archéologie réelle et ce qu'on vous met à la télévision. Donc je me suis dit que faire l'archéologie du bœuf bourguignon serait un bon moyen de vous remettre sur la voie de l'archéologie telle qu'elle est.
C'est parce qu'on aime bien que tu nous le
dises. Quoi que maintenant, les émissions d'archéologie, c'est de plus en plus scientifique. On recherche pourquoi telle personne est morte.
Mais ça, c'est pas de l'archéologie, ça. Ça, justement, tu vois, c'est ça le problème.
C'est de
la criminologie. Non, ça va être de l'anthropologie. Donc ça va être un biologiste ou quelqu'un de la médecine légale, mais c'est pas un archéologue. Le souci, il est là.
Comme c'est un...
Elle est où, alors? Non, c'est
en Égypte.
Non, c'était le répondeur.
C'est toujours pas de l'archéologie. C'est ça le problème. Justement, Annick, là, tu mets le doigt pile poil sur le problème de ces documentaires. C'est-à-dire qu'en fait, on va te parler d'une civilisation. Comme on te parle d'une civilisation du passé, de suite, on va te faire un lien avec l'archéo. Mais il n'y a pas que des archéologues qui travaillent sur le passé.
Non,
ça regroupe un tas de disciplines, effectivement. Voilà. Et donc, dans le cas des momies, ça va être l'anthropologue ou le paléoanthropologue qui va travailler sur les ossements, ou alors le médecin.
Ou le médecin.
Mais ce ne sont pas des archéologues. Mm-hmm. Et donc, finalement, en fait, quand on commence à faire un peu on regarde un peu la succession, finalement, l'archéologie, où est-ce qu'elle est dans cette affaire?
Oui, c'est ça, à la limite. C'est celui qui rassemble tous les éléments.
Alors, ça, là, merci de faire le lien. Ça, c'est le rôle auquel on l'a cantonné pendant des dizaines d'années et qui n'est pas son rôle non plus. C'est-à-dire, certes, comme il est sur le chantier de fouille ou sur le... C'est effectivement lui qui va être le chef d'orchestre pour rassembler des compétences, mais ce n'est pas son rôle unique. Son rôle, normalement, c'est d'amener à une compréhension du passé par la technique. Donc, par exemple, sur les momies, ce qui va être intéressant, c'est que la momie en elle-même, comment est-ce qu'on l'a momifiée? Voilà. Et là, on va rentrer dans le rôle de l'archéologue, à savoir l'expérimentation pour retrouver les processus sur les outils qui vont être employés, sur les matières qui vont avoir été utilisées. Et là, mais ça, en revanche, quand on parle des momies, on va parler de la technique momification, mais on ne va pas te faire le déroulé de comment l'archéologue a retrouvé ce genre de choses.
Ah, mais moi, je peux vous le dire, par contre.
Non, on parlait des momies égyptiennes.
Oui, mais le bœuf, c'est pareil. Hein.
Alors, pourquoi donc le bœuf bourguignon, qui est contemporain? Parce que d'une part, justement, la partie contemporaine, on s'en occupe aussi. C'est-à-dire, quand les ethnologues font un travail qui concerne des populations vivantes, en fait, ils font aussi de l'archéologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils interviennent sur des processus techniques, en fait, ils se substituent à l'archéologue parce que tout simplement, très fréquemment, de point de vue historique, l'archéologie s'est intéressée que depuis peu aux éléments contemporains. ou 19e et 20e.
L'image de l'archéologue, c'est un peu le Schliemann. Enfin, pour moi, c'est
voilà,
ça.
C'est ça. Et donc, ben justement, là, ça permet de pouvoir remettre sur un élément contemporain et en même temps de voir comment est-ce qu'on fait justement quand on a ces éléments contemporains, comment est-ce qu'on tire. Là, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le fait de faire un repas autour du bœuf bourguignon. Et bien, si on doit en faire une décomposition comme le ferait un archéologue, c'est-à-dire dans le processus scientifique de l'analyse et non plus uniquement de la dégustation du bœuf bourguignon, comment est-ce que l'on ferait? Et donc, on va voir ça avec Véronique tout au long de cette dégustation.
Il va falloir,
comme des rêveurs.
Il a fallu déjà élever le bœuf.
Tout à fait.
Après, il faut le tuer. Enfin, l'emmener chez le boucher, le tuer, etc.
Donc déjà, tu parles donc déjà de deux métiers différents.
Ah bah oui.
Tu vas avoir l'éleveur et le boucher. Mmh. Donc déjà, l'archéologue, il va falloir qu'il arrive à retrouver...
Et justement, le vétérinaire avant aussi pour
et entre les deux, tu vas avoir le vétérinaire. Ouais. Et ce que vous préférez, ce que nous avons, l'artefact que nous avons, l'objet archéologique que nous avons sur notre table, qui est le résultat d'un processus, c'est la viande qu'on est en train de manger. Mmh. Avec tout un ensemble de choses. On a commencé par le vin. Donc on est en fait, on est dans imaginez qu'on est sur un site archéologique, parce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que les archéologues travaillent sur quoi? Sur des humains qui ont vécu. Donc justement, nous sommes avec tout un ensemble de données que pourrait trouver un archéologue sur n'importe quel site, que ça soit enterré ou pas.
Si la maison s'écroule comme tout, c'est qu'on nous retrouve tous avec le vin, le bœuf bourguignon, la carte de découpe, tout.
Qu'est-ce que c'était cette
l'archéologie du bon sens fait un dimanche
immédiatement. Donc voilà, le contexte il est là, c'est-à-dire que ça permettait dans le cadre d'un archéologie de changer, donc de voir un documentaire et d'en discuter. Là au moins nous sommes les acteurs, non seulement parce qu'on va le manger, on ne va pas le regarder, mais en plus parce qu'un des membres, justement, a fait un travail de recherche là-dessus et a rencontré un certain nombre d'intervenants qui vont avoir un lien.
Voilà.
Et Patrick s'est plié aussi au jeu, puisqu'il a fait le reportage photo.
Oui, c'est ça. C'est le petit mot que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je n'ai pas fait ça toute seule. Mm-hmm. J'ai fait avec Patrick. Qui m'a bien aidée sur ce coup-là, parce que on a...
Alors, Patrick, tu l'as vu à Saint-Étienne-du-Mont, c'était le monsieur qui avait la parka rouge.
Oui, ah,
la
cheveux rouge, très très blanc.
Cheveux blancs,
oui,
voilà.
Oui, d'accord, parce que je connais pas.
Je
ne m'intéresse pas, alors là, et donc, c'est avec lui qu'on a fait.
Je ne sais pas trop dans quel sens je vais prendre la chose.
Il y en a
un autre qu'on ne voit pas.
Il y a une photo. Il y a Jean-Alain.
On ne voit plus trop d'ailleurs. On l'a vu à Rodin.
Exact, oui. Et il ne vient pas à Lisbonne.
Donc en revanche, Patrick ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, malheureusement, je ne sais plus pour quelle raison, mais...
Familial.
Oui, voilà.
Il a dû aller à Rennes pour des raisons de famille.
Voilà. Il a des problèmes familiaux, donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire?
Et donc, tu as des photos à nous montrer.
Donc, qu'on pourra voir, parce que Patrick a pris des photos, et notamment sur l'enquête que l'on a fait, et le questionnaire que j'avais effectivement... listé très
Ah bah tiens, tu peux nous l'amener d'ailleurs.
Le questionnaire?
Oui.
Il est dans sa tête.
Là, mais non, elle l'a listé, donc elle a bien
l'air. Oui, non, si c'est vrai, il est dans le cahier,
on veut voir le cahier.
Les photos, il les a fait tout au salon de l'agriculture. Au salon de l'agriculture, les photos.
Je suis jamais allée au salon de l'agriculture.
Mais c'est moi non plus, parce que je
vois toute
la foule.
Il y a tellement de choses que
Mais c'est pour ça qu'ils sont allés en semaine.
Ah oui, voilà.
Je vais t'occuper.
Moi, j'y suis allée une fois
d'ailleurs,
il y a longtemps,
alors, on prend la retraite, toi. Tu es encore en activité. Parce que pour ceux qui sont en disponibilité, je rappelle quand même que Véronique avait mis dans le forum, pour ceux qui voulaient l'accompagner, qu'elle allait... C'est pour ça
je
que
là.
Je
suis pas encore assez habituée à trop regarder, parce qu'il y en a elle se rapproche. Allô? Oui, non, faut que je commence à. Attends, je suis devant.
Mais il ira pas plus bas. Non, mais laisse-le, il ira pas plus bas.
On va le mettre par là, comme ça tout le monde le
voit. Ça y est,
arrive, Chantal?
Non, c'est pas ça.
Tiens, bon, bah fais voir, mais je vais la regarder.
Non, mais je suis une toute nouvelle adhérente quand même. Ça fait un moment que j'ai tourné autour. Hein,
mais bon. Bah, ouais, faut pas hésiter, parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas par courriel, oui, qui sont, oui, tout ce qui est sur le forum nécessite d'aller sur le site internet. Ouais. Et j'ai fait l'envoi via Chris il y a quelques temps de ça, de la mise en ligne d'une conférence qui avait été faite sur le Proche-Orient, au Centre culturel syrien. Pour
Mais elle peut pas tout voir, elle était partie sur
un chameau. Je suis partie en
ah oui, ben bah voilà, c'est pour ça.
J'ai couru derrière les chameaux pendant une
c'est
semaine.
C'est pour ça.
Complètement épuisée.
Donc, il y avait aussi un peu pour ton, il y avait aussi un peu un jeu sémantique, si j'ose dire, au sens où on a l'habitude, en fait, pour l'archéologie du bœuf bourguignon, on a l'habitude de dire on va faire l'archéologie d'une carafe. Ou, et justement, là, je trouvais intéressant de le mettre sur une recette de cuisine. Pour surprendre à ce niveau-là et se rendre compte que quelque chose qui n'est pas la recette en elle-même, c'est pas quelque chose de matériel. Le résultat est matériel, mais pas la recette elle-même. Et justement, d'arriver à comment on peut arriver à rendre matériel quelque chose d'immatériel en se focalisant sur les éléments de la démarche de l'archéologue. C'est-à-dire quelle est sa démarche, quelles sont les questions qu'il va se poser, qui va rendre matériel l'élément qui est en fait un ensemble d'actions qu'il ne peut pas retrouver. Parce que moi je ne sais pas, à moins qu'elle l'ait marqué dans un calepin et encore, ça se trouve parfois elle ne marque pas, mais je ne peux pas savoir combien elle a passé vraiment de temps, quels sont les gestes qu'elle a faits. Je n'étais pas avec une caméra derrière en train de filmer l'ensemble de son travail sur la recette elle-même.
Et comment tu as été accueillie Comment tu as été accueillie par les personnes Comment tu t'es présentée
Les gens sont... Ça fait ça à chaque fois. Les gens sont enchantés de répondre à des gens qui font partie d'une association qui parlent d'archéotopia.
Qu'est-ce que c'est que ça
Mais pas l'archéologie où on gratte. Alors qu'est-ce que vous faites? Et là, on développe, on dit, on recherche chacun de notre côté, et puis on se rassemble pour savoir comment l'homme a évolué, quels ont été les moyens que l'homme a utilisés pour évoluer.